Nous sommes enfin, pas aujourd'hui, mais dans le texte que je vais lire, nous sommes en 700 avant Jésus-Christ. Et la ville de Jérusalem est menacée par une coalition de peuples qui viennent du nord. Et c'est à ce moment-là que le prophète Ésaïe vient s'adresser au roi, qui est inquiet, et lui dit que Dieu va intervenir. Au chapitre 7. Ésaïe, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Immanuel. Dieu est avec nous. Elle, Dieu, Immanuel avec nous. Et l'oracle, la prophétie se prolonge et on lit quelques paragraphes plus loin, à la fin du chapitre 8, au début du chapitre 9. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Cette terre, c'est le nord d'où vient l'ennemi. Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer de l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller, conseiller étonnant. Dieu héros, Père éternel, prince de paix. 700 ans avant Jésus-Christ. Et 700 ans plus tard, en Galilée, une jeune fille vierge reçoit la promesse de la naissance d'un enfant, Emmanuel. Alors, je vais aller un peu vite. Ou bien je me suis trompé de diapo, peut-être ça. Dieu avec nous, dit le messager de Dieu au chapitre 1 de l'évangile de Matthieu. Emmanuel, Dieu avec nous, chapitre 1 de Matthieu, accomplissement de la promesse d'Ésaïe. Et quelques paragraphes plus loin dans l'évangile de Matthieu, cette fois-ci, on lit que quelques années plus tard, Jésus quittera Nazareth, s'installe dans une autre région, une Galilée, qui est au nord de Jérusalem, qui est plutôt méprisée à l'époque. Et ce mouvement lui-même de Jésus vers la Galilée est compris à la lumière de cette même promesse qu'Ésaïe avait faite. Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et nous voici ce matin, 700 ans plus tard, 2000 ans plus tard. Ce matin, c'est pas terrible. Nous voici au cœur d'un monde dont la tonalité nous paraît parfois sombre, en tout cas qui nous est dépeint par les actualités comme quelque chose de plutôt sombre, et il l'est sans doute. Et nous voici en Église reprenant ce texte. L'enfant est venu, la grande lumière s'est manifestée, s'est levée. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'on fait alors avec toutes ces ténèbres qui nous sont présentées et qui restent présentes? Comment articuler l'un avec l'autre? Comment dépeindre cela? Comment nous le dépeindre à nous-mêmes et pour nos contemporains? Alors je me vois comme aidé, comme inspiré, un petit peu, par la façon dont un artiste ukrainien, chrétien, Irénée Yurchuk, propose de le faire. Alors Yurchuk est né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a grandi à New York, où il habite toujours. Et puis il a un style où il combine la photographie, le dessin, la peinture, avec des matériaux divers, acrylique, aquarelle, jet d'encre, pastel, marqueur, crayon de couleur, matériaux de collage. Et comme nous, il est porté par l'espérance chrétienne et il vit dans le même monde que nous. Et l'année dernière, en 2022, dans ce monde où restent présentes les ténèbres et l'ombre de la mort, eh bien, il peint une nativité. Et je vous la donne à voir. On restera un petit moment juste à regarder avant de continuer. Alors le cadre du tableau, vous le voyez, ce sont les décombres d'un complexe d'appartements bombardés. Nous devinons des poutres d'acier qui sont renversées, des blocs de béton, du verre brisé. Nous devinons ce qu'il reste d'un immeuble qui avait abrité des familles. Les sapins de Noël, les joies et les difficultés du quotidien, de vie familiale ordinaire. Et ces décombres correspondent peut-être à ce qui, pour nous aujourd'hui, qui ne vivons pas dans les mêmes décombres, mais est un immeuble comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est au milieu de cela que sont représentés donc Joseph, Marie et Jésus, dans un style qui rappelle les icônes, au milieu du tableau, au milieu en bas, mais au milieu du chaos. Marie tient le nouveau-né. Joseph, peut-être, est plus abattu, tenant apparemment sa tête dans ses mains, à moins qu'il soit endormi, je ne sais pas. Mais vu comme ça, la situation paraît quand même assez désastreuse. Et en même temps, les voilà représentés là, les voilà au cœur du monde. Un monde qui est éventré, un monde qui est ruiné, où on ne bénéficie même plus de l'abri de base, au milieu des ruines. Et leur présence s'inscrit dans un espace qui est à la fois comme au centre de tout ça et qui est en même temps comme un espace à part. Et au-dessus d'eux, vous l'avez vu, dans la trouée des immeubles, l'artiste représente une étoile brillante. J'ai envie de dire, comme pour nous donner à voir, comme s'il voulait nous donner à voir que ce qui fait la une aujourd'hui des actualités, les photos chocs, les images chocs et la matérialité crue du malheur le plus tangible qui est rendu au travers de ces images d'actualité, du malheur le plus visible, du malheur le plus réel, la précarité et l'incertitude la plus forte, avec un traitement médiatique imposé et ressassé, comme si tout cela ne disait pas tout du monde. Au sein du chaos, Yurchuk propose de voir et figure un espace pour autre chose, un espace pour la naissance, un espace pour un renouvellement. Même si le mal paraît submergé, nous fait-il sentir, l'espérance reste ouverte, et perce au cœur de ce mal, au cœur de ce monde, pour qui, en tout cas, veut la voir, pour qui veut lever les yeux, pour qui veut contempler dans les trouées du monde et du chaos. Alors, je ne suis pas un grand amateur de peinture, de tableaux. Je crois que j'aime dans ce tableau cette inscription dans ce monde-là, cette inscription de la réalité chrétienne dans ce monde réel d'aujourd'hui. Quand on reproche au christianisme de n'être qu'une fuite du réel, de le voir aveugle à la réalité du mal, sans pertinence, sans valeur, comme quelque chose d'illusoire. Alors je suis prêt à penser en même temps aux personnes qui auraient ce sentiment à l'égard du christianisme, que la façon dont nous racontons l'histoire biblique contribue parfois à cette impression d'aveuglement, de fuite du réel. Un peu bon enfant, Jésus est né, tout le monde sourit. Jésus et Noël, papa, même combat. Enfin, le folklore, quoi, le folklore naïf. J'aime dans ce tableau qu'il donne à sentir comment la nativité se présente, en fait, dans le récit biblique lui-même, quand on le lit. Alors certes, dans le récit biblique, il n'y avait pas d'immeuble éventré à l'époque, il n'y avait même pas d'immeuble du tout. Mais si on reprend ce qui précède et ce qui suit, on se rend compte que le couple du récit biblique est confronté à la violence et au mépris. La mère est soupçonnée, les enfants ne viennent pas tout seuls, quoi. Et au village, ça jase. Les enfants ne naissent pas d'une vierge. La naissance de Jésus, elle a lieu aussi dans un monde où l'on n'accouche pas tranquillement. Enfin, je sais bien qu'on n'accouche pas tranquillement, mesdames, ne vous jetez pas sur moi, et messieurs, s'il vous plaît. Mais je le dis quand même, voilà, j'assume quand même. Elle n'a pas lieu dans un monde où on est à peu près tranquillement, dans un hôpital, accompagné par un personnel médical généralement compétent, on l'espère en tout cas, bien entraîné, on l'espère aussi, disposant en plus de toute une technologie pour nous assister. Donc, voilà. À l'époque, on accouche, mais on accouche là où on est. Et si on est sur la route, et puis on accouche sur la route. L'ambulance ne va pas venir nous chercher, on ne fait pas le 15, le 16, enfin bon, bref, le numéro qu'il faut faire, quoi. On accouche à l'endroit où on peut. Cette naissance, elle a lieu dans un monde où il n'y a pas de pharmacie, où l'eau ne coule pas juste quand on allume le robinet. C'est C.S. Lewis, je crois, dans Le problème de la souffrance, qui dit que le christianisme est né dans un monde où le chloroforme n'existe pas. Donc on n'a rien pour calmer la douleur. Et cette naissance, en plus, elle a lieu dans un monde où le roi des Juifs apparaît et est perçu comme une menace pour le roi en place. Et ce roi en place, c'est pas quelqu'un de bienveillant. Il a pas de gêne, il a pas de scrupules à faire exterminer les enfants du pays pour conserver sa tranquillité. On ne sait jamais, un enfant le menace. Allez, on zigouille tout le monde, quoi. Et la suite du récit biblique, en plus, va jusqu'à mettre au premier plan de son récit, Gilles l'a évoqué tout à l'heure, la mort choquante de celui qui est le personnage principal du récit, celui qui fait naître la foi, la mort en croix. Et les disciples de Jésus, à la fin de l'évangile de Luc, on les voit désabusés, on les voit déçus, on les voit tristes, désorientés, désillusionnés, et ils rentrent. Ils rentrent à pas lourds, le long du chemin d'Emmaüs, plombés par l'actualité là qui les touche, eux, cette fois-ci, de plein fouet. Jusqu'à ce qu'ils croisent quelqu'un qui leur fait voir un autre tableau de la même réalité. Et pour eux, c'est apparemment comme une espèce de trouée dans le réel. Et les voilà qui se mettent à courir, les voilà qui chantent. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils fassent ainsi comme retour sur eux-mêmes et retour sur la route? Il y a des trouées dans le réel. Un espace pour une nouvelle naissance de l'espoir, pour un renouvellement au lieu même où le mal semble avoir gagné la guerre. Il y a des choses qui ne sont pas apparentes, qui ne sont pas dites dans les propos médiatiques. Il y a une fissure dans le prêt-à-penser du monde et de la société dépressive, ici, dans notre histoire. Si bien que nous n'avons pas, pour oublier un peu, à nous contenter de rêver au monde imaginaire, avec des majuscules, au monde merveilleux de petit papa Noël, ou de petit papa et petite maman commerce, au monde merveilleux d'Atlantis, de l'Eldorado, de Dinotopia, de, je sais pas comment on dit, de Poudlard, de Pandora, de la Terre du Milieu, des bisounours. Des fictions télévisées, mais il faut bien qu'on nourrisse le peuple, hein, du pain et des jeux, donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Sur les ondes, des utopies ou bien des dystopies que nous rêvons ou bien que nous cochons, pardon, parce que même le monde d'Atlantis et de Pandora, c'est pas très gai, il n'y a pas que des bonnes choses qui s'y passent. Donc nous n'avons pas que ça à nous mettre sous la dent, si je puis dire, même si ça a le mérite apparent de nous distraire au moins un instant. La Bible, en tout cas, fonctionne là, dans le monde réel. Alors, Yurchuk propose une autre œuvre qui ressemble assez largement à la première. C'est pas une nativité, mais c'est autre chose. Une autre œuvre qui propose un autre portrait du monde. Et je dirais un autre portrait de la possibilité d'être au monde, de la façon d'être au monde. Une façon de tenter de faire voir comment la lumière peut se dire et se faire sentir, luire dans les ténèbres. Alors c'est la manière de l'artiste, c'est la manière poétique, la manière imagée. Comment le porteur d'espérance peut s'inscrire dans le monde? Alors ce tableau, je l'ai déjà présenté lors d'un culte au mois de septembre, certains s'en souviendront peut-être. C'est à nouveau un portrait de l'Ukraine. C'est une partie. Et à nouveau, on a un portrait d'immeubles qui sont éventrés. Les merveilles de l'ingéniosité humaine. Je ne sais pas construire un immeuble. Moi, j'ai déjà du mal à changer d'ampoule. Alors. Ces merveilles qui sont explosées, qui sont réduites à néant. Ces merveilles d'ingéniosité humaine qui sont si faciles à détruire. Donc il nous propose un portrait des réalités tordues, des réalités abîmées, désarticulées de notre monde. Et le tableau s'appelle Anticipation. Le voici en entier. Et là encore, je vous propose de le regarder un instant, en silence. Anticipation, parce que c'est le portrait d'un espoir, et je crois du type d'espoir qu'offre, que propose la foi chrétienne. Dès la première génération des chrétiens, tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Une foi chrétienne qui se dit, qui se présente comme empreinte de quelque chose qui est plus grand que ce monde. Et qui interdit de désespérer. Et je crois que plus que cela, la foi chrétienne invite, appelle à s'avancer, à se positionner dans ce monde-là, à s'inscrire dans cette trouée du monde et à voir au-delà de ce qui se donne à voir ou de ce qui nous est donné à voir. Et je crois que quelqu'un l'avait fait remarquer quand on avait échangé sur ce tableau en septembre, c'est le portrait aussi d'une artiste ici. Un portrait qui est incarné par l'artiste. Et si nous sommes attachés à la foi chrétienne ce matin, eh bien cet artiste pourrait nous figurer, nous. Elle figure en tout cas une partie de notre vocation. L'artiste du tableau est là, au cœur du monde. Elle s'y campe fermement. Et l'artiste, il ou elle refuse de se laisser influencer, de se laisser infecter, je dirais, de se laisser infester, désespérer, dans ce cercle étouffant des informations qu'on écoute en boucle. Et vraiment, ça va de plus en plus mal. Hein. Et demain, ce sera pire. Et petit à petit, au jour le jour, comme ça, sans le voir, c'est comme si nous étions affectés. Comme si nous sombrions nous-mêmes et que nous étions tentés de nous résorber, de nous ratatiner, de nous laisser aller au silence auquel la laïcité nous convie. À l'écart, dans un endroit de repli, dans notre petite bulle familiale, que nous essayons de protéger tant bien que mal, peut-être sans y arriver toujours d'ailleurs, au point parfois tellement nous nous replions, tellement nous sommes affectés de nous voir exposés petit à petit à être, à devenir des vecteurs, nous aussi, de morosité, des rabat-joie, des critiques, des voisins connus pour se plaindre, pour faire la gueule, pour maugréer, comme des personnes qui sont à notre tour, à notre corps défendant, à notre foi défendante, affectés, affligés de désespérance, même si on ajoute « allez quand même au liqueur, hein, parce que nous croyons en Jésus ». Et c'est parfois le vivre et le dire comme si nous y croyions dans un espèce de monde parallèle, en fait, un peu à part dans cette intimité rassurante des murs de l'église de ce matin. Et puis ailleurs, au fond, en fait, tout est pourri, quoi. Alors si c'est ça notre tentation, si c'est ça qui nous gangrène, j'ai envie de nous redire cet évangile annoncé par Ésaïe, l'évangile bonne nouvelle, c'est le sens du mot, hein, annoncé par Ésaïe et repris par Matthieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et Hurchuk place son artiste au milieu du monde, au milieu du chaos, présente, l'artiste est présente à ceux qui s'observent, à ceux qui se donnent à voir, et c'est là que l'artiste peint. Hurchuk présente l'artiste et ouvre à ce que la foi chrétienne peut donner à voir, ce que les promesses de Dieu annoncent, laissent pressentir, des promesses dont la fiabilité, en plus, elle est comme assurée, elle est comme garantie, enracinée, parce qu'elles se sont déjà, elles ont commencé à se matérialiser dans l'histoire, déjà, c'est vérifiable. Parce que les promesses de l'Écriture sont enracinées dans une histoire de révélation d'autres promesses qui se sont déjà concrétisées. La jeune fille a bel et bien mis au monde un fils, Dieu avec nous. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière, car le Fils nous est donné. Et dans l'évangile de Matthieu, quelques paragraphes plus loin, à peine plus loin, on entend Jésus dire à tous ceux qui entendent, qui l'entendent, et pour qui brille cette lumière, la chose suivante, que nous pouvons entendre nous aussi aujourd'hui. C'est vous, vous qui croyez, qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, que notre lumière, brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je t'invite à un moment de silence. Puis je mesure que je n'ai pas envie de faire de durer le silence, mais j'ai envie de le dire en chant, en prière. Brille, ô Jésus, je vous invite à vous lever pour chanter.